Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il y a quelque temps, nous avons vu que Jésus nous fait triompher de la mort et aussi qu'il nous fait triompher du péché. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus-Christ nous fait triompher aussi du monde. Ce texte de la première épître de Jean affirme que celui qui est né de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, a triomphé du monde. Je souligne immédiatement que triompher du monde est ici cité au passé, dans le verset 5, c'est donc fait, c'est accompli, mais c'est aussi cité au présent dans le verset 4, parce que c'est en train de se faire, chaque jour, c'est en train de s'accomplir. Cette parole de Jean, à propos de la victoire du croyant sur le monde, fait écho au moins à deux déclarations de Jésus rapportées aussi par Jean, mais dans son évangile. La première est cette parole de Jésus donnée dans la chambre haute la nuit où il fut arrêté. Jean chapitre 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cette parole fut donnée aux disciples pour les encourager et pour les rassurer alors qu'ils étaient troublés par ce que Jésus venait de leur annoncer, son départ et sa mort imminente. Ils ressentaient à ce moment-là toute l'hostilité et la différence de ceux qui ne partageaient pas leur foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire le monde. Et puis la seconde déclaration, c'est la prière que Jésus a faite juste après leur avoir dit cela, toujours dans cette même nuit. Cette prière appelée la prière sacerdotale qui nous est rapportée dans Jean 17. Dans cette prière, Jésus cite à plusieurs reprises le monde, et notamment il déclare au verset 14 « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Ces textes et d'autres vont nous aider à comprendre comment Jésus nous amène à triompher du monde. Pour comprendre en quoi consiste cette victoire sur le monde, il nous faut d'abord préciser ce que la Bible veut dire quand elle parle du monde. C'est un mot qui a un sens très large dans la Bible, voire même plusieurs sens. Et finalement, la grande amplitude de ce mot peut nous tromper. Le monde peut signifier dans la Bible l'univers. En grec, c'est le mot « cosmos ». Il peut signifier l'humanité, la terre habitée. Il peut aussi signifier un groupe important de personnes. Nous utilisons souvent ce mot dans ce sens-là. Il peut signifier la multitude sans Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut lire Jean 3,16. Et puis, il peut signifier la mentalité dominante dans l'humanité sans Dieu. La grande amplitude de ce mot nous permet de comprendre certaines contradictions apparentes dans le Nouveau Testament. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisque Dieu a aimé le monde, il nous faut donc l'aimer aussi. Mais le contraire semble être annoncé dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'explication est simple. Dieu a aimé l'humanité perdue, mais il n'aime pas la mentalité dominante et ambiante dans l'humanité. Cette mentalité inspirée par des mauvais désirs, par l'orgueil, l'égoïsme. Nous aussi, nous sommes appelés à aimer les gens, mais à ne pas aimer les principes et les mentalités qui dominent dans ce monde. Lorsque Jean nous parle de victoire sur le monde, il nous parle de triompher de cette mentalité ambiante, sans Dieu et qui rejette Dieu. Il faut réaliser cela parce que l'idée de vaincre le monde pourrait conduire facilement à divers dérapages. J'en cite quelques-uns. Quand Jean nous exhorte à triompher du monde, il ne nous dit pas de conquérir le monde avec la force. Jamais dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée à fonctionner de cette manière-là. Ceux qui essaient de justifier leur guerre avec des textes bibliques s'inspirent souvent de textes particuliers de l'Ancien Testament. Mais c'est une erreur de justifier un conflit militaire dans le monde avec la Bible. C'est une erreur quand ce n'est pas de la malhonnêteté ou de la manipulation. Quand Jean nous exhorte à triompher du monde, il ne nous dit pas cela dans le sens de nous isoler du monde et de rentrer dans une vie monastique ou sectaire. Dans cette période de perte de valeurs, de perte de repères, de rejet de ce qu'on appelle les valeurs judéo-chrétiennes, certains croyants pourraient être tentés de se couper du monde, physiquement et socialement. C'est la tentation du sectarisme, de l'ermite ou du monachisme, pour triompher du monde. Mais Jésus a donné à cet égard cette parole claire que nous avons lue, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde. Pour cela, ils doivent forcément être dans le monde sans être du monde. Jean chapitre 17, verset 16. C'est tout un défi. Et puis, quand Jean nous exhorte à triompher du monde, il ne le dit pas dans le sens d'essayer de changer le monde, en essayant de l'influencer. Et là, je mets en garde les croyants contre ce genre de prédication moderne qui appelle les chrétiens à changer le monde. Le monde ne change pas sur le fond, peut-être dans sa forme et dans son apparence, mais il ne change pas sur le fond. Et notre but n'est pas de changer le monde parce que nous ne pourrons pas le changer. Le monde ne change pas dans ses principes et dans sa mentalité parce qu'il gît sous la puissance du malin. Notre but premier est d'amener des hommes et des femmes du monde à changer de vie par la foi en Jésus-Christ. Chaque fois que l'Église a essayé d'influencer le monde, elle a fini par lui ressembler. L'Église est venue au pouvoir au IVe siècle. Dans un premier temps, il semble que l'Église ait apporté une certaine influence sur la société en étant au pouvoir. Mais en même temps, au fil des années, au fil des siècles, elle s'est mondanisée, politisée et corrompue. Elle a voulu changer le monde plutôt que d'amener les hommes et les femmes à sortir du monde pour entrer dans le royaume des cieux. Et au final, c'est le monde qui l'a changé et qui l'a déformé. Par contre, il est évident que si dans un pays, il y a beaucoup de chrétiens authentiques, beaucoup de personnes qui se tournent vers Jésus-Christ dans la foi et dans la repentance, il en résultera un changement visible et perceptible au niveau de la mentalité générale de la société. Cela s'est déjà observé dans le passé en certaines circonstances. Mais là, nous parlons d'une conséquence, nous ne parlons pas d'une méthode ou d'un objectif. Qu'est-ce que ça veut dire triompher du monde? Quand Jésus dit qu'il a vaincu le monde, Jésus veut nous dire qu'il ne s'est pas laissé gagner par les principes mondains, la mentalité qui domine dans ce monde. Non seulement il ne s'est pas laissé dominer, influencer, manipuler, mais il a ouvert la voie pour vivre dans le monde d'une autre manière, avec une autre mentalité. C'est aussi dans ce but-là qu'il s'est fait homme et qu'il a vécu comme un simple homme. Il me semble que la victoire que Jésus nous demande va dans le sens de s'en préserver. Jésus a prié pour qu'on en soit préservé. Et pour appuyer cela, j'ajoute la déclaration de Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Triompher du monde consistera à se préserver de ce que le monde nous suggère et nous propose. Le monde, premièrement, nous propose des valeurs opposées à celles du royaume de Dieu. Le monde nous propose ces valeurs et il nous faut nous en préserver. C'est ça, triompher du monde. Il y a quelques années, dans une publicité, il était dit, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Eh bien, c'est le cas. L'Église n'a pas les mêmes valeurs que celles du monde. J'entends par valeur ce qui est considéré comme bien, ce qui est vu important dans la société. Les valeurs du monde sont principalement la richesse, la célébrité, la liberté dans le sens de pouvoir faire ce qu'on veut, le plaisir. Celui qui possède ces choses-là n'est-il pas considéré comme une personne qui a réussi ? Ces choses citées ne sont pas des péchés, mais elles peuvent le devenir lorsqu'elles sont recherchées, lorsqu'elles deviennent des buts dans l'existence, lorsqu'elles deviennent plus importantes que les valeurs du royaume de Dieu. Il y a dans le cœur du croyant des choses qui ont plus d'importance que cela. J'en cite quelques-unes. L'intégrité, c'est-à-dire l'honnêteté intérieure, est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous invite à veiller sur notre cœur, sur nos pensées, sur notre conscience. Et s'il faut choisir entre son intégrité et la richesse ou le plaisir ou la notoriété, eh bien, nous avons choisi. Soyons plus précis. Si pour acheter ou pour vendre quelque chose, je suis prêt à passer par un procédé malhonnête, comme ne pas déclarer la TVA, comme ne pas déclarer la totalité du prix de vente, cela signifie que l'argent a plus de valeur que mon intégrité. Le monde a triomphé de moi. Si pour obtenir une promotion ou un emploi, je suis prêt à mentir sur mon CV, sur mes déclarations, afin d'arriver à mes fins, mon élévation professionnelle est plus importante que mon intégrité. Le monde a triomphé de moi. Parmi les vertus qui sont d'une grande valeur dans le royaume de Dieu, il y a la fidélité. Cette notion est d'ailleurs très proche de l'intégrité et de la sincérité. Cette valeur est tellement importante que les chrétiens sont appelés fidèles. Être fidèle, c'est être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Mais reconnaissons que la fidélité n'est pas ou n'est plus considérée comme une valeur dans ce monde, que ce soit sur le plan conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan de l'amitié. La Bible nous dit jusqu'où le chrétien doit être fidèle, jusqu'à la mort. C'est dire la valeur qu'il faut accorder à cette vertu. Parmi les autres grandes valeurs du royaume des cieux, il y a la foi en Jésus-Christ. Pierre nous dit qu'elle est plus précieuse que l'or. Mais quand j'observe certains chrétiens qui n'entretiennent pas leur foi, qui ne l'alimentent pas, qui n'en prennent pas soin, je me dis qu'elle n'a pas, à leurs yeux, la valeur qu'elle devrait avoir. Quand ce sera le moment de quitter cette terre, l'argent inscrit sur mon compte en banque n'aura aucune valeur. Ma notoriété non plus. Ce qui importera, c'est d'être dans une position de foi en Jésus-Christ. Je voudrais rappeler aux chrétiens ici qu'il n'y a pas que l'argent que l'on peut se faire voler. La foi peut nous être dérobée si nous ne veillons pas. Satan a même été prêt à donner à Jésus-Christ toutes les richesses et les royaumes de la terre en échange de son amour, de son adoration, de son intégrité et de sa foi. Deuxièmement, le monde propose des normes différentes que celles de l'Église. Le monde nous propose des normes et des lois qui évoluent en fonction des tendances, des lobbies, de la majorité, des modes. Le résultat est que ce qui est considéré comme bien auparavant, ce qui était considéré comme bien auparavant, peut être considéré comme mauvais aujourd'hui. Et inversement, ce qui était considéré comme mauvais peut être considéré comme bien avec le temps. Il y a quelques années, l'adultère était sanctionné. Aujourd'hui, non seulement l'adultère n'est plus sanctionné, mais il est presque valorisé. Il est considéré comme normal. Il y a quelques temps, j'avais entendu à la radio un psy conseiller d'avoir des aventures extra-conjugales à des personnes mariées. Il disait que c'était bon pour eux et même bon pour leur couple. Nous observons un déplacement des valeurs morales dans le monde, pour ne pas dire une inversion des valeurs, dans de nombreux domaines, et la tendance se poursuit. Et pour le chrétien, les normes ne varient pas, parce que ces normes se trouvent dans la parole de Dieu qui est immuable et invariable. Les péchés qui étaient condamnés il y a 2000 ans le sont toujours aujourd'hui. Il n'y a pas de prescription. C'est ce que Paul rappelait aux Corinthiens quand il leur disait, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » C'est la Bible qui définit ce qui est bien en termes d'éthique de moralité. Elle est la vérité par laquelle le croyant va s'étalonner. Nous touchons là une différence essentielle entre les principes du royaume des cieux et ceux du monde. Une différence qui est en train de s'accroître. Nous, croyant en Jésus-Christ, nous croyons qu'il y a une seule vérité qui est dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous lui accordons une pleine autorité. Mais notre monde, notre société, a rejeté la notion de vérité absolue. Pour le monde, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est chacun selon sa vérité. Nous sommes dans ce que l'on appelle le relativisme. Mais j'ajoute que le relativisme atteint aussi le monde évangélique, sous des formes subtiles, notamment quand on commence à dire que tel texte de la parole de Dieu n'est plus valable aujourd'hui pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Se laisser vaincre par le monde, c'est laisser le monde nous imposer ses normes, ses lois, morales. Je sais que tout chrétien qui écoutera cela réagira en disant « Il n'est pas question que le monde me dicte ma conduite et mes normes. » Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne la méditez pas, si vous ne vous en nourrissez pas, vous êtes inévitablement influencé par la mentalité ambiante parce que vous n'avez aucune défense immunitaire, aucun filtre. Troisièmement, le monde nous propose ses modèles différents. Cette semaine, Diego Maradona, un grand joueur de foot emblématique, est décédé. L'un des titres sur un journal était « Dieu est mort ». Ce joueur de foot fit gagner la Coupe du Monde à l'Argentine en 1986. Mais il fut loin d'être un modèle dans d'autres aspects de sa vie. Le monde nous propose des modèles sur lesquels chacun va essayer de se caler. Il y en a dans tous les genres, pour tous les goûts. Mais la parole de Dieu nous propose aussi des modèles. Il y a l'apôtre Paul qui disait « Imitez-moi ». Jésus lui-même a dit à ses disciples « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Frères et sœurs, ne quittons pas des yeux les bons modèles. La parole de Dieu nous propose des modèles, le monde aussi. Lesquels allons-nous suivre? Salomon a reçu de la part de son père un modèle pour la construction de son temple. Un chronique Chapitre 28, verset 12, il, donc David, lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Ce modèle avait été communiqué par Dieu lui-même à David, son père. Il lui dira que c'est par un écrit de sa main que l'Éternel lui a donné l'intelligence de tout cela et tous les ouvrages de ce modèle. La question que je me pose souvent, Salomon a-t-il construit le temple selon ce modèle? Manifestement, Salomon a agi selon ce modèle, tout au moins au début. Mais il semble que Salomon soit sorti du modèle à un moment donné, qu'il ait fait dans la démesure, qu'il soit allé plus loin dans le luxe, dans certaines dimensions, dans le tape à l'œil. Je dis bien « il semble ». Ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'il a changé de modèle en cours de route. Et il a fini par inverser les valeurs et succomber aux séductions du monde d'alors. Quatrièmement, le monde a ses méthodes. Le monde a ses méthodes pour atteindre ses objectifs et ses valeurs. Certaines sont respectables, d'autres non. Parmi les méthodes déplorables qu'on peut observer dans le monde, il y a la flatterie, le mensonge, la ruse, les pots de vin, la pression, la manipulation, la critique, la calomnie, sur les réseaux sociaux par exemple, ou même ailleurs, et l'on pourrait continuer. Je voudrais affirmer haut et fort que ces pratiques douteuses n'ont pas leur place dans le cœur du croyant. C'est déplorable quand une personne use de flatterie ou de calomnie pour obtenir quelque chose. Mais ça l'est encore plus quand un chrétien agit de la sorte. Je ne dis pas que le chrétien doit être imperméable aux méthodes du monde, celles qui sont honorables, par exemple qu'il ne doit jamais signer une pétition ou participer à une grève. Mais je dis qu'il y a dans le cœur du chrétien des méthodes qui sont prioritaires et qu'il doit actionner en premier. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je me permets de remplacer ici le mot « arme » par le mot « méthode ». Dieu nous propose d'autres méthodes, d'autres recours. Ces méthodes, ces armes sont la prière, la foi, l'amour, le pardon, l'intégrité, l'obéissance, la prédication de l'Évangile, l'humilité, la gratuité, les dons spirituels. Toutes ces méthodes paraissent ridicules aux yeux du monde, mais elles sont puissantes pour ceux qui les utilisent dans la foi en Jésus-Christ. Ne nous trompons pas de méthode, prenons celle de Jésus-Christ. Elle fonctionne. Je termine avec quelques remarques personnelles. Personnellement, je suis toujours mal à l'aise avec ceux qui disent que le monde est entré dans l'Église. Notamment quand ceux qui me disent cela donnent l'impression d'être bien au-dessus de cette contamination. Je reste prudent avec cela, parce que je trouve que c'est bien audacieux de parler de cette manière-là, car ces gens sous-entendent qu'eux ont vaincu le monde. Je pense qu'il faut avoir le triomphe modeste. Dans ce domaine, tant la frontière avec le monde n'est pas bien définie, et notre positionnement dans le monde difficile, parce que si nous ne sommes pas du monde, nous y vivons quand même. Retenons cette pensée que Jésus-Christ a triomphé du monde dans le sens où il s'en est préservé. À aucun moment, le monde n'a pu lui imposer ses valeurs, ses normes, ses modèles, ses méthodes, et bien d'autres choses comme ses affections, ses convoitises, ses préoccupations, ses menaces. C'est dans ce sens-là où il nous faut batailler et triompher du monde tout en trouvant un équilibre qui ne soit pas du compromis. Je voudrais aussi souligner pourquoi c'est important d'en triompher. Dans le texte lu en introduction, Jean nous dit de triompher pour une raison précise. Celui qui triomphe du monde trouvera les commandes de Dieu faciles à mettre en œuvre. Mais celui qui ne se préserve pas du monde et de sa mentalité, forcément, il trouvera souvent les commandements de Dieu pénibles et pesants, parce qu'il aura le cœur partagé entre le royaume de Dieu et le monde. La vie chrétienne est enthousiasmante pour celui qui la vit à fond, mais elle est pesante pour celui qui est partagé. Je pense à ce texte de Matthieu, chapitre 6, verset 24. « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Enfin, une vérité qui me paraît importante pour triompher du monde. On observe depuis quelques années un déséquilibre dans l'annonce de l'Évangile. Il est beaucoup prêché que Jésus-Christ peut nous aider dans nos problèmes ici-bas. C'est vrai, mais c'est un aspect de la vérité. Il est important aussi d'annoncer cet Évangile qui prépare les gens à l'éternité, qui invite à lever les yeux et qui nous exhorte à nous attacher aux choses d'en haut. L'Évangile n'est pas que pour m'aider à mieux vivre ici-bas. Il est même d'abord pour que je m'attache aux choses éternelles, aux choses d'en haut, aux choses célestes. C'est le meilleur moyen pour mettre le monde à la bonne distance. En ne prêchant qu'un évangile destiné à nous aider ici-bas, on ne fait pas des disciples, on risque de faire plutôt des chrétiens mondains. Le chrétien est appelé à vivre sur la terre, comme un voyageur, comme quelqu'un qui passe. Que les choses du ciel, que les choses éternelles, que les choses d'en haut occupent plus de place dans notre cœur, en gardant les pieds sur terre. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci de nous avoir sauvés, d'avoir pardonné nos péchés. Et le défi pour nous, une fois qu'on est sauvés, c'est de triompher, de marcher en vainqueur. Seigneur, on veut vraiment te demander de nous aider à nous préserver du monde. Le monde a ses méthodes, il a ses valeurs. Il nous suggère toutes sortes de choses et pour nous, c'est jamais facile. Seigneur, parce que si nous devons nous en préserver, en même temps, nous vivons dans ce monde. Nous avons vraiment besoin de ta grâce. Mais tu l'as affirmé, tu as triomphé du monde. Le monde n'avait aucune place, aucune influence, aucune emprise sur ta pensée. Et nous voulons vivre de même, te prendre comme modèle. Seigneur, aide-nous Dans notre époque, nos circonstances, notre contexte, on a besoin de ta grâce. Te louons parce que tu fais de nous des vainqueurs. Louange et gloire à Jésus-Christ. Amen.